L'émission qui va suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand les jeunes quittent le nid, c'est inéluctable, les enfants finissent un jour par quitter le toit familial pour vivre leur vie d'adulte. Les mères pleurent, les pères ne montrent rien, alors peut-être que j'exagère un peu, mais c'est vraiment le syndrome du nid vide. Jamais vraiment vide d'ailleurs en Afrique où il y a tellement de cousins à accueillir. Tandis qu'en Europe, depuis la crise des années 2010, l'allongement aussi de la durée des études et maintenant le chômage, les jeunes partent de plus en plus tard, 26 ans en moyenne. Un jeune sur six dans le monde aurait perdu son emploi depuis le début de la pandémie, selon l'Organisation internationale du travail. Alors ça ne facilite pas la façon de prendre son envol. Les voisins, les voisines, on attend vos témoignages. Le départ de la maison est-il un soulagement, une nostalgie? Appelez-nous dès maintenant, que vous soyez du côté des parents, du côté des enfants, appelez-nous sur notre compte WhatsApp 337 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Raphaël Milkovic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, thérapeute familial, professeur à l'université Paris 8. Également avec nous, la sociologue Elsa Ramos. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez à l'université de Paris. Vous êtes membre du laboratoire Serlis, un centre de recherche sur les liens sociaux. Merci d'être toutes les deux en lien avec nous. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41. C'est le compte WhatsApp. Et bien sûr, des témoignages qui nous parviennent sur nos réseaux sociaux. Josué est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il nous dit « C'est toujours un moment où tout le monde est en larmes, un calme rempli de tristesse. On ne veut vraiment pas partir, mais il le faut. On a fait ses bagages, emballé ses affaires et on se dit « je dois partir ». Il faut se dire « au revoir ». Ce n'est pas toujours facile. Ensuite, on s'installe chez soi, on y passe sa première nuit. Le lendemain, on organise ses repas. C'est pas facile, mais il faut oser un jour. Je le dis parce que moi, je suis partie de chez les parents il y a tout juste un mois. Oui, en effet. Eh ben, bon courage, hein, Josué. Ilad est à Lomé, au Togo. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de quitter le toit familial, mais les difficultés de la vie au dehors me rappellent qu'il faut être responsable et bien mûr avant de se lancer. Pascal est à Bukavu en RDC. J'ai quitté la maison de mon père après mes études universitaires, mais à un certain moment, je me suis demandé pourquoi j'étais partie. Maintenant, j'essaye de me battre pour réussir. Et puis, écoutez aussi le témoignage de cette voisine à Kinshasa.
Bonjour aux voisins et aux voisines. Je vous appelle depuis Kinshasa. Moi, mes parents, ils sont très coriaces du point de vue chantage émotionnel. Ils ne veulent jamais qu'on quitte la maison, peu importe l'âge, peu importe le niveau de notre société. Ils sont toujours possessifs et ils trouvent toujours des arguments forts comme quoi là-bas tu ne seras pas à l'aise, tu as choisi une fille, tu ne peux pas t'en aller seule, la société va penser quoi de toi, il y aura ci, il y aura ça. Il y a trop de choses qui se disent et on arrive à un point où on ne s'est même pas d'accord avec nos parents. Et mes soeurs et frères qui sont partis de la maison, soit ils ont fait par violence, soit ils ont voyagé tout simplement. Donc voilà, moi, ça fait deux mois que je prépare mon départ. Je prépare une phrase, je ne sais pas moi, je prépare un texte dans lequel je pourrais leur expliquer clairement que vraiment je les aime, mais il vaut mieux que je quitte parce que je préfère être seul pour prendre plus de décisions sérieuses, pour devenir un peu plus indépendante et pour qu'ils me montrent aussi qu'ils ont confiance en moi, ils ont confiance en l'éducation qu'ils m'ont construite.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Aznat, qui prépare son départ de la maison familiale depuis deux mois. On est derrière vous, bien sûr, Aznat, hein, si vous écoutez l'émission en direct, et j'espère. Elsa Ramos, est-ce que Aznat a raison de préparer une lettre pour mettre les choses au clair avec les parents qui ne veulent pas la laisser partir, notamment aussi beaucoup parce qu'elle est une fille?
Alors, est-ce qu'elle a raison? Je ne sais pas si je peux répondre, enfin oui ou non. En tout cas, ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est qu'elle met en avant une tension, c'est-à-dire on est membre du groupe, on est membre du groupe familial, on est aussi peut-être, on est fille au sens de la filiation et au sens du petit enfant. Donc voilà, donc ces dimensions-là qui l'assignent à être membre de la famille, et puis ce qui se dégage de son témoignage, c'est la question de l'autonomisation, de la prise d'indépendance.
Et vous, Raphaël, Milkovitch, vous trouvez qu'elle a raison d'écrire cette lettre, vous qui êtes psychologue ?
Oui, je pense que ça peut être, si elle a du mal à exprimer les choses en face, ou qu'on a du mal à se faire entendre. Oralement, oui, ça peut être intéressant pour elle de passer par le biais d'une lettre pour sensibiliser ses parents à son point de vue et sa difficulté à rester malgré leurs injonctions.
Mmh. Oui, injonction, chantage émotionnel, elle le dit de cette façon-là. Est-ce que ce chantage émotionnel, il s'adresse davantage aux filles ?
Pas forcément. Je n'irai pas jusque là. Je pense que les problématiques typiques, j'ai envie de dire spécifiques aux filles et aux garçons, sont peut-être différentes dans les deux cas. Effectivement, pour une fille, ça va plus faire entrer en ligne de compte les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à ce qui pourrait lui arriver, tandis que pour un garçon, ce sera différent. Ça peut être des difficultés à s'en séparer. Enfin bon, ça peut être différent
à
selon le sexe, mais
à s'en séparer, c'est-à-dire
se séparer de son enfant.
Pour les parents.
Voilà, pour les parents. Après, ça, c'est pas propre aux garçons non plus. Hein. Mais oui, je pense que les parents, en fonction de ce qu'ils imaginent du monde extérieur et de la capacité de leur enfant à y faire face, ils seront plus ou moins ouverts à l'idée que leur enfant quitte le nid. Et puis aussi, par rapport à la relation qu'ils ont avec leur enfant, ils peuvent être plus ou moins confiants ou inquiets en fonction de ce qu'eux-mêmes ont pu vivre avec leurs propres parents quand ils sont partis de chez eux.
C'est ça, et tout dépend aussi de l'ambiance dans le fameux nid familial. Tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage de Yona, 21 ans. En décembre 2020, elle a quitté l'appartement où elle vivait avec sa maman et sa sœur à Chantilly, en région parisienne, pour emménager avec son petit ami à Rantigny, une ville qui est située à une vingtaine de kilomètres de la maison familiale. Elle raconte sa décohabitation au micro d'Inès Edel Garcia.
Chez ma mère, on avait deux chambres, donc une pour moi et une pour ma sœur, et elle dormait dans le salon. Et à mon départ, je lui avais dit, maman, évidemment, tu vas récupérer ma chambre, ça va devenir la tienne. Et elle voulait pas du tout. Elle me disait, non, c'est ta chambre, on la garde pour quand tu viendras dormir à la maison. Et finalement, elle a décidé d'emménager dedans, mais elle appelle toujours ça ma chambre. Elle me dit, je dors dans ta chambre. Et elle veut pas dire que c'est sa chambre parce que je pense que pour elle, ça serait un peu comme si elle m'effaçait de la maison et elle est pas prête à ça. Moi, j'ai toujours voulu en fait être indépendante, avoir mon propre chez moi, m'émanciper un peu du cocon familial. Donc j'avais pour projet de partir à 18 ans. Malheureusement, pour plusieurs raisons, ça n'a pas pu se faire. Donc je suis restée chez ma mère avec ma sœur. Et puis c'est récemment qu'on a décidé avec mon copain, avec qui je suis depuis maintenant presque 4 ans, de vivre ensemble parce que c'était déjà un beau projet de couple. Et aussi parce que financièrement, c'était plus simple de prendre un appartement à deux. Donc on a fait pas mal de recherches, on a trouvé un super petit appartement proche de chez nos parents pour ne pas trop s'éloigner. Et on a emménagé en décembre, donc ça fait maintenant 4 mois qu'on vit là-bas.
Et comment votre maman a réagi quand vous lui avez soumis l'idée de partir ?
Alors j'ai pu en parler à ma mère assez longtemps avant que le projet se fasse, puisque c'était des appartements qui étaient en construction. Donc elle a été au courant à peu près 8 ou 9 mois avant que je déménage. Mais elle n'en parlait pas, elle n'y pensait pas, et puis voilà. Et quand on a commencé à se rapprocher de la date du départ, quand on a commencé à acheter des meubles, à concrétiser vraiment la chose, là j'ai senti qu'elle vivait mal en fait. parce que elle pouvait pas s'imaginer que je sois plus avec elle au quotidien, qu'elle me voit plus tous les jours, même si c'était juste pour se dire bonjour et manger ensemble. Donc ça a été assez dur. De là, j'ai remarqué qu'elle a commencé à essayer de partager le plus de moments possible avec moi, comme si j'allais partir pour toujours. Et donc c'était voilà, des activités ensemble, c'était beaucoup discuter, plein de petites attentions, des petits cadeaux, m'acheter des vêtements, m'acheter des petits produits de beauté qu'elle ne faisait pas du tout avant, enfin en tout cas pas aussi souvent. Et je sentais qu'elle était quand même assez triste. Le soir, quand elle allait se coucher, elle me disait « bonne nuit » avec une petite voix. Et elle me disait « mais regarde, tu vas abandonner ton chien, elle est triste, elle ne va plus se nourrir, elle ne va plus jouer ». Alors que je sentais bien qu'en fait, elle parlait du chien, mais c'était plus elle que ça concernait, en fait, cet état de tristesse et de manque. Elle essayait un peu, je pense, de me culpabiliser sans vouloir être méchante, mais des fois, c'est vrai que c'était dur parce que je me sentais mal. Je me disais, est-ce que c'est moi qui abandonne ma famille, ma petite sœur? Est-ce que ma sœur va bien s'occuper de ma mère? Est-ce que tout va bien se passer sans moi? Mais elle me disait quand même qu'elle était très heureuse pour moi et qu'elle était contente que je puisse prendre ma vie en main toute seule et que c'était super, mais c'était dur pour elle quand même.
Et aujourd'hui, Yona, comment a évolué votre relation avec votre maman depuis que vous avez quitté le nid, du coup ?
Alors au début, c'est vrai qu'elle m'appelait très souvent, tous les jours je pense d'ailleurs, parce qu'elle voulait savoir comment ça va, est-ce que je suis bien rentrée, comment s'est passée ma journée. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé. C'est vrai que des fois, c'est même moi qui l'appelle et pas forcément elle. Parce qu'on a toujours été quand même très proches. Donc pour moi, c'est important aussi de savoir comment elle va, comment se passent ses journées, son travail. Aujourd'hui, on est devenus bénévoles dans un refuge pour animaux. Tous les vendredis, c'est notre petit rendez-vous. On se rejoint et puis on s'occupe des animaux ensemble. On discute, on se promène. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais fait si j'étais pas partie de la maison. On se voit aussi en général souvent pour le repas du dimanche. Elle préfère toujours quand c'est chez elle. Même quand je lui dis « Maman, viens à la maison », elle me dit « Non, toi, viens à la maison, chez nous ». Je pense que le fait de venir chez moi, ça accentue un peu le fait que ça soit chez moi et plus chez nous. Et c'est sympa en fait parce qu'elle cuisine, on fait des jeux, on rigole. Alors qu'avant, on faisait ça peut-être une fois tous les 6 mois ou peut-être à Noël. Donc je pense que ça nous a vachement rapprochés quand même.
Raphaël Milkovitch, tout un symbole tout de même, hein, ce départ avec la chambre de l'enfant qui va rester la chambre de celui qui part.
Oui, ben là, ce témoignage, il illustre bien l'ambivalence du parent qui, à la fois, sait bien que son enfant prenne son envol, mais qui, à côté de ça, doit vraiment tourner une page, pas forcément la page, mais une page, et passer à vraiment un autre mode de relation que celui de la cohabitation quotidienne et une présence permanente de son enfant. Donc c'est vrai que c'est un gros changement pour le parent. Et on voit aussi que le fait que ce lien soit un peu menacé du point de vue de la maman, ça fait aussi qu'il devient plus nourrie, enfin que chacune du coup prend des initiatives pour vraiment maintenir cette relation qui malgré tout persiste en dépit du départ de la jeune femme chez sa mère.
Yona, elle a 21 ans. Elsa Ramos, c'est plutôt assez jeune hein, pour quitter le nid, parce que c'est en Europe que les jeunes quittent le nid le plus tardivement, non finalement?
Alors oui et non, parce que si on va vers le nord de l'Europe, les jeunes gens partent plus tôt que si on va vers le sud de l'Europe. Donc je pense qu'il faut faire attention à généraliser, voilà, puisque vers le nord, par exemple au Danemark, ils partent aux alentours d'une vingtaine d'années, et plus on va vers les pays du sud de l'Europe, et plus on est à 27-28 ans.
Mmh. Parce que les jeunes Danois, en plus, perçoivent une allocation d'étudiants systématique, hein, sans condition de ressources.
Tout à fait, sans condition de ressources familiales. Et ce qui est intéressant pour les jeunes danois, c'est que ce sont ceux qui partent le plus tôt, qui décohabitent le plus tôt et qui se disent adultes le plus tard. Parce qu'ils sont vraiment dans une logique, j'allais dire, de quête de l'identité, du être soi-même, qui est très très forte dans les pays dits occidentaux, mais plutôt dans l'Europe du Nord.
Et dans cette Europe du Sud, méditerranéenne et au Portugal ?
Alors, dans l'Europe du Sud, il y a moins de sens à partir pour vivre seul. Voilà, prendre son indépendance et puis vivre seul. On part parce qu'on se met en couple, donc on peut déjà avoir un travail, on peut déjà être propriétaire et vivre encore chez ses parents, parce que la décohabitation ne prendra sens qu'avec la mise en couple et donc la décohabitation pour vivre dans cette nouvelle famille.
Est-ce que vous diriez que l'enfant reste plus tard quand il ne reste dans le foyer qu'un seul des deux parents, quand les parents sont séparés, par exemple pour ne pas laisser sa mère seule ?
Non, on n'observe pas nécessairement de variation sur ces aspects-là. C'est vrai que, alors si je prends le contexte français où on est dans une famille, j'ai envie de dire dite relationnelle, donc ça dépend beaucoup des relations qui se jouent entre parents-enfants.
Raphaël Milkovic, quand il y a une bonne entente, pas de relations conflictuelles dans la famille, ça peut aussi retarder le départ finalement parce qu'on est bien à la maison tout simplement.
Oui, alors ça, c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus. C'est vrai que les jeunes, comme ils ont tout ce qu'ils veulent à la maison, éventuellement, si on caricature un peu, leur mère qui nettoie leur linge, qui leur passe, qui fait à manger, l'argent qu'ils gagnent avec leur travail, le dépense à des sorties ou des plaisirs, pas dans un loyer ou d'autres dépenses moins drôles. Donc, c'est vrai que ça peut arriver, effectivement, que les jeunes se plaisent complètement chez eux. Et ce qui peut surprendre parfois les parents, parce que eux, au même âge, étaient très pressés de quitter leur famille. Oui. Et je pense qu'à l'époque aussi, ça se faisait beaucoup moins. Et donc, qui sont surpris, voire inquiets de ce comportement de leur enfant, mais qui est finalement tout à fait logique et pas forcément le signe d'une pathologie psychiatrique ou autre. Donc,
mais alors, comment on se définit adulte dans cette relation de dépendance quand on habite encore à la maison, même si parfois on peut payer une petite somme à ses parents pour participer aux dépenses de la maison, ça arrive. Hein, mais comment on se définit adulte ?
Alors, déjà, le jeune ne va pas forcément se poser cette question. Il peut vivre au jour le jour et tant que la question ne se pose pas par lui, par son entourage ou par les parents, il peut tout simplement ne pas se la poser lui-même et du coup rester dans ce schéma-là et vivre au jour le jour sans vraiment s'interroger sur son statut d'adulte. Donc je suis après, ça dépend à quel point c'est consenti ou subi. Si c'est un adulte qui est empêché de partir pour des raisons financières ou autres, évidemment que là, ce ne sera pas vécu de la même manière.
Alors vous nous appelez bien sûr les voisins et les voisines. Hein, vous avez la parole, quelle que soit votre situation, sous le toit, à l'extérieur du toit familial, 33-7, 64-45, 51-41. On donne la parole à une voisine qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour. Reine.
Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour les voisins, bonjour les voisines.
Très bien, on est ravis de vous accueillir. Reine, vous avez 22 ans et vous êtes toujours chez vos parents ?
Exactement, exactement.
Et alors, quelles sont les questions que vous vous posez aujourd'hui ?
En fait, avant qu'on est avec les parents, on est jeune, on ne se pose pas vraiment de questions. Mais avec l'âge, on se dit, il faut que je prenne mon autonomie, il faut que je gagne mon propre argent, il faut que... Mais... on a vraiment peur de franchir le pas parce qu'on est dans une certaine zone de confort. Mmh. Et c'est assez compliqué quand vous évoquez même le sujet avec les parents. Ils se disent, t'es une fille, hein, tu ne peux pas sortir. Ou bien, il faut que ce soit ton mari qui vienne te chercher parce qu'il y a la culture, le poids des coutumes aussi, qui est très important. Donc, c'est assez compliqué. Je me demande comment faire parce que je suis personnellement aussi effrayée à l'idée de sortir, de me retrouver livrée à moi. Mais je me dis que c'est très important de pouvoir le faire à un moment ou à un autre. Voilà, c'est un peu ça.
Ça veut dire que vous n'envisagez pas, Reine, de... Je ne sais pas si vous êtes étudiante ou pas en ce moment, par exemple.
Oui, je suis encore étudiante.
D'accord. Ça veut dire que vous n'envisagez pas de prendre une chambre d'étudiante sur un campus ou en ville, loin de vos parents, si vous n'êtes pas mariée, par exemple ?
En fait, c'est une question qu'il ne faut même pas aborder avec les parents, parce qu'ils vont se dire, déjà, ils n'ont pas voulu que j'aille au campus. Ils disent que t'es trop jeune, tu ne pourras pas t'en sortir, c'est assez compliqué, il y a trop de voyous, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Donc, tu restes à la maison, on te suit et tout. Mais quand même, j'arrive à travailler un peu. Je m'intéresse à certaines choses pour pouvoir mettre de l'argent de côté en attendant.
En attendant de prendre votre envol, de trouver la liberté et de faire vos propres choix finalement, Reine, c'est ça, hein ?
Exactement, exactement.
Raphaël Milkovic, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Reine pour essayer de devenir adulte malgré cette situation, malgré cette pression familiale qui est une pression, mais une pression sympathique, hein, finalement, dans le confort, dans la gentillesse, dans l'amour paternel et maternel, si j'ai bien compris. Hein.
Oui, 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 oui. Donc, effectivement, ça rend peut-être la chose encore plus compliquée quand les parents sont bienveillants et sont persuadés de faire au mieux en incitant Reine à rester à la maison. Donc, après, bon, c'est plus à Reine de voir où elle en est, elle. Et si vraiment c'est quelque chose qui, elle, lui convient, qui lui paraît souhaitable de rester un peu plus longtemps pour mettre de l'argent de côté, etc. Ou si quelque chose qui est pesant et voilà la question c'est toujours trouver un équilibre entre aménager les relations mais sans que ce soit au dépend de sa différenciation de sa propre identité donc je pense que la question se pose à ce niveau-là.
Gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté, Reine, en tout cas c'est déjà un premier pas dans la vraie vie d'adulte, hein.
Ah, merci beaucoup.
Merci
à vous. Ça m'encourage à continuer.
Mais oui, merci à vous en tout cas de nous avoir appelé, Reine. Hein, c'est pas simple. Hein. Vous continuez de nous téléphoner, bien sûr. Quittez le nid, le toit familial. Qu'en est-il pour vous si vous êtes du côté des enfants, du côté des parents? Peut-être il y a des mamans aussi qui écoutent cette émission. 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole. Dites-nous comment se passe le départ. On vous donne la parole juste après cette mélancolie du rappeur qui cartonne en ce moment, SCH. Il vient de sortir son nouvel album et ce titre, Raison.
Tu sais pas où j'en suis aujourd'hui. Je sens que c'est ma chance, si j'y vais sans attendre, je pourrais tuer mes soucis. J'ai quitté la maison pour le charbon, j'ai tué la galère. Je me suis tué un peu aussi. On brave les vents, les froids, les pays, les fronts des marais. On brave les feux, la haine de ceux qui sont égarés. On se connaît peu, on connaît mieux les fonds de nos rues. Y'a pas plus vrai que les rires des coins délabrés. Trop maladroit si un jour je t'aimais trop. Quand je mets le destin à la bourre dans mes âneries. Voir tout s'effondrer, ça va vite, tu réalises pas. Bâtis tout ce que tu peux avant que tes cheveux soient gris. Oh mama, oh girl. Les filles avaient raison, le pouvoir nous divise. Poser des questions, comment réussir ma vie. Oh God, mon père avait raison, les moments t'en regard. Oh Baba, ma mère avait raison, fallait que je rentre à la maison. Rentre à la maison, dehors c'est dangereux, mais je suis l'homme de la maison. Peu de chance que ça nous mène au paradis, peu de chance qu'on se quitte Dieu. Toutes les étoiles dans le ciel, l'univers est si vaste, je me perds dans sa grandeur. Je pense qu'à faire de l'espèce, l'obscur est si vaste. Je me perds dans sa noirceur. Ça y est, tu reviens maintenant qu'on brille. Mais je suis seul dans mes douleurs, c'est pendant qu'on prime. J'ai pris gros, j'ai perdu gros, j'ai gros sur le cœur. Quand l'appétit dicte l'humeur, suffit de montrer le cœur et les tripes. Y'a des gens qui regardent les prix, enfoiré, qu'on peint un rond après le 15, enfoiré. J'oublie pas d'où je suis ni d'où je viens, enfoiré. N'oublie pas de qui je tiens, enfoiré. J'suis mon rep, enfoiré. Oh, God. Les filles avaient raison, le pouvoir nous divise. Oh, maman. Je me posais des questions, comment réussir ma vie. Oh, God. Mon père avait raison, les moments t'en regard. Oh, baba. Ma mère avait raison, fallait que je rentre à la maison. Oh, fallait que je rentre à la maison.
Comment réussir ma vie, comme le dit SCH, loin du toit familial. Comment ça se passe, le départ pour vous du nid familial, que vous soyez du côté des parents, du côté des enfants? Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On en discute avec vous, Raphaël Milkovitch, psychologue, Elsa Ramos, sociologue, et nous vous donnons la parole. Écoutez le message de ce voisin de 28 ans. Il a posté sur notre compte WhatsApp.
Bonjour la famille, bonjour, je réponds au nom de Constantin Balakiem Abidi. Vous savez, quitter le nid n'a toujours pas été un choix facile. Jeunes que nous sommes, arrivés à un âge donné, nous voulons être indépendants, ne plus être tributaires des parents, être autonomes, mais nous sommes confrontés à plusieurs problèmes tels que le manque de hardiesse, la tristesse des parents et les avis des gens. Moi personnellement, issu d'une famille pauvre, et orphelin de père dès l'âge de 6 ans, j'ai dû me batailler dur et à l'âge de 25 ans, je suis parvenu à devenir chef de famille. Actuellement, j'arrive à subvenir à mes besoins et aux besoins de ma maman.
Alors, c'est drôle parce qu'il nous dit chef de famille, mais on s'est renseigné, on lui a demandé via WhatsApp, puisqu'il n'était pas disponible pour être en direct avec nous. Mais en fait, il n'est pas encore marié, il n'a pas encore d'enfant. Donc, il est chef de lui-même, hein, Constantin. Mais c'est intéressant d'utiliser cette expression. Allez, on vous donne la parole aussi en direct. Amadou nous appelle de Dakar au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Amadou, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
23 ans, étudiant en licence en sociologie à l'université Charanta Diop. Alors vous êtes parti il y a quelques mois seulement, en janvier dernier, c'est ça, hein ?
Ouais.
Alors, ça fait quel effet, Amadou ?
Bon, bonjour à tous les voisins. Bonjour aussi également à vos invités.
Oui.
Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je gagne du respect. Là, je me débrouille, je fais tout moi-même, je gagne également de l'autonomie, une certaine autonomie, une certaine indépendance.
Mm-hmm.
Hein? Même en recevant ce que je gagne à la fin du mois, je ne gaspille pas parce que je sais que je dois payer un loyer, j'ai des charges, je dois me payer à manger, et tout ça là, mes habits, tout ça là.
C'est ça, vous louez une chambre, hein, c'est ça, Amadou, en ville, à Dakar, et donc vous êtes obligé de gérer toutes les tâches matérielles et vous avez un petit boulot pour subvenir à vos besoins, c'est bien ça?
C'est ça, oui. Moi, ouais. Bon, je suis étudiant, comme vous l'avez dit, étudiant en sociologie, également étudiant en journalisme et communication. Depuis un an, sept mois, je travaille comme pigiste pour un site en ligne et également dans un quotidien qu'on appelle Critique.
Bravo. Ouais. Et chez les parents, alors, il reste encore des frères et sœurs ou des cousins, des cousines?
Oui, je suis le cadet. J'ai 4 frères et 3 sœurs. Je suis le cadet, quoi.
Et il reste combien d'enfants à la maison, chez les parents?
Bon, tous mes frères et sœurs, pratiquement, ils travaillent. Mais mes parents vivent, c'est mon grand frère.
D'accord.
Ça va, quoi. Ouais.
D'accord. Et vos parents, alors, qu'est-ce qu'ils disent de vous?
Bon, je sens qu'ils sont très fiers de moi. Tout ce que je regrette, c'est la nostalgie que je provoque chez ma mère. Figurez-vous, Emmanuel.
Oui.
Même chaque soir samedi, elle m'appelle pour me dire « Mais où t'es ?» Alors que samedi, elle n'a pas fait les études, elle ne comprend pas.
Oui.
Chaque samedi, je lui rappelle, je dis « Maman, chaque samedi, j'ai cours de 8h à 16h. » Mais chaque samedi, elle m'appelle et me dit « Mais où t'es ? T'es censé venir ?» Et tout ça là, « Mais maman, je ne suis pas censé venir, j'ai cours de 8h à 16h, je ne peux pas. » Et puis elle est à 13 km de chez moi.
Mm-hmm.
Même pour l'exemple, le dimanche dernier, je lui ai dit « Maman, je n'ai pas assez d'argent pour me payer du carburant parce que j'ai une mobilette, une moto.
Ouais. »
C'est elle-même qui m'a payé le carburant pour venir. Ça me fait très plaisir. Mm. C'est vrai qu'elle se sent nostalgique de ne pas me voir ici.
C'est clair, hein, Amadou, vous lui manquez à votre maman.
Oui, c'est ça.
Et c'est difficile, hein, de maintenir ce lien parce que c'est ça qu'elle recherche finalement, Amadou.
Si, c'est sûr, c'est ça, hein, c'est ça. Mais je l'aime aussi, puis elle sent que je suis adulte, que je suis responsable, je suis capable de prendre des décisions. Hein, elle sait ça, et puis ouais. Je pense que ça va aller, quoi.
Eh bien, bravo à vous, on n'en doute pas une seule seconde, Amadou. Envoyez-lui le lien de l'émission, hein, pour qu'elle puisse l'écouter sur le téléphone, parce que c'est un joli message d'amour que vous lui adressez.
Elle ne comprend pas le français, hein, à part que bon,
vous allez lui traduire, Inch'Allah. Merci de nous avoir appelé. Sédou nous appelle, il a 29 ans, il est à Niamey, au Niger. Bonjour Sédou.
Bonjour Emmanuel.
Vous vivez seul depuis l'âge de 21 ans déjà?
Oui, c'est ça, c'est pas facile.
Oui.
Donc, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RFI. Donc, je me nomme M. Daoud Ahima Seydou. Je vis seul depuis l'âge de 21 ans.
Oui.
Et maintenant, Dieu merci, je suis en chômage, mais quand même, je fais des activités qui vraiment me donnent le courage de continuer à me battre.
Vous êtes parti étudier à Niamey, hein, si j'ai bien compris. La famille est restée au village. Et votre maman, alors, est-ce qu'elle est comme celle d'Amadou, un peu triste de ne pas vous voir suffisamment souvent?
Oh oui, c'est pas facile pour une mère de rester sans voir ses enfants à tout moment. Mais quand même aujourd'hui, comme on arrive parfois à se voir de temps en temps, je pars là-bas, je fais à peu près une semaine, deux semaines, je reviens à Niamey, c'est pas tellement loin. Donc elle n'a pas assez de problèmes dans ce sens-là.
Et vous, alors vous vous sentez libre comme l'air, pas encore chef de famille?
Bon, quand même, je me sens un peu libre parce que non seulement je fais tout ce que je veux, c'est-à-dire concernant la responsabilité. Aujourd'hui, je sais que rester seul, là, c'est très difficile, mais quand même, tu dois apprendre à être responsable de toi-même, à te battre pour l'avenir. Parce que les mères et les pères, ne resteront pas toujours avec toi.
Eh ben, je vous sens très philosophe, hein. Seydou, merci de nous avoir appelé. Elsa Ramos, on voit bien tout de même que la situation est vécue du côté des jeunes. Finalement, ça ne pose pas tellement de problèmes de se retrouver seul face à soi-même en général, non?
Alors oui, ça ne pose pas de problème, peut-être moins que pour les parents, mais je pense que dans les quelques témoignages là, que j'ai entendus, il y a un aspect qui est important quand même à distinguer, c'est de dissocier l'indépendance et l'autonomie, parce que on peut, du côté de l'indépendance, toute sa dimension objective, c'est-à-dire d'avoir un peu d'argent, d'avoir un emploi, d'avoir un logement, etc. Et de l'autre côté, l'autonomie, davantage une dimension de réalisation des projets personnels, de responsabilisation, etc. Plus une logique un peu subjective. Et ce qu'on entend bien dans les du côté des jeunes, dans les témoignages là, du côté des enfants, pardon, des jeunes adultes, ce qu'on entend bien, c'est cette dissociation de d'un côté l'indépendance et de l'autre pas davantage quelque chose de l'ordre de l'autonomisation.
Et par exemple, je sais que vous avez travaillé aussi avec des jeunes qui quittent le toit familial pour tenter l'aventure migratoire. Est-ce que ça s'apparente aussi à une autre façon de devenir adulte?
Alors, ce qui est important, c'est qu'on part, on peut partir pour le groupe familial. Je vous donne un exemple d'un jeune qui me dit « Moi, je veux partir en Europe ». Pour ramener un étage à la famille. Donc c'est du, comment dire, de quelque chose d'individuel, mais qui est mis à l'actif et au profit du groupe familial. Donc on part en tant que fils d'eux, en tant que membre du groupe de la famille.
Et donc en ramenant de l'argent, effectivement, on ramène quelque chose de tangible pour la famille. Donc on part pas seulement pour son propre destin individuel, d'une certaine manière.
Tout à fait, tout à fait. Et le paradoxe s'entend hein, dans les discours qu'il y a effectivement « Pourquoi tu veux partir ? Moi, je vais partir pour faire ma life. » Et qu'est-ce que ça veut dire faire ta life ? Ramener un étage pour la famille.
Ramener un étage, bah, peut-être aussi pour permettre à la famille de s'agrandir, d'être plus confortable. On vous donne la parole, 33 7 64 45 51 41. Hassan nous appelle de Paris, il est originaire de Côte d'Ivoire. Bonjour Hassan.
Bonjour Emmanuel.
Alors, est-ce que vous êtes parti pour tenter l'aventure en France? Comment ça s'est passé? Parce que là, c'est une vraie rupture par rapport à votre famille en Côte d'Ivoire.
Bah, moi, pour le coup, je ne dirais pas vraiment parce que ça s'est fait en deux étapes.
Oui.
D'abord, j'ai été étudiant en Côte d'Ivoire et mon université se trouvait un peu, si vous voyez la carte de la Côte d'Ivoire, je suis originaire de Boaké au centre et mon université se trouvait au nord, à Korogo. Et il a fallu que je quitte la famille. Pour le coup, c'était pas vraiment quelque chose de difficile pour moi parce que j'avais un goût de liberté et j'avais vraiment besoin d'être autonome. Et du coup, ça a été fait. Les premières difficultés, c'était comme je le disais, la difficulté face à la cuisine. Parce que je savais vraiment pas faire cuire un œuf et j'appelais souvent ma mère pour lui demander comment est-ce qu'on fait ça et par téléphone ou par message. elle me transmettait les différentes recettes et voilà, j'ai réussi à être un bon cuistot et là maintenant, je m'en sors pas mal, je dirais. Et la seconde difficulté, c'était plutôt lié au budget, à la gestion du budget, parce que voilà, on est amené à tout gérer soi-même. Et c'était vraiment pas évident. C'est à la suite que je suis venu en France et là maintenant je suis autonome à 100%, je dirais.
Et vos parents, comment ils vivent votre départ? Il y a d'autres frères et sœurs qui sont restés à la maison? Ils ont encore beaucoup de travail pour s'occuper de la famille?
Oui, pour ma part, ça va à ce niveau-là. Et même que par moments, je me sens plutôt un peu comme étant une personne étrangère à la famille.
Ah
parce
bon
que quand je rentre, ouais, récemment, j'étais en Côte d'Ivoire et j'avais j'étais un peu dans une situation assez bizarre parce que j'avais l'impression d'être un étranger parmi les miens. Mmh. Ça m'a un peu déçu, j'avoue. Pour moi, l'autonomie ou l'indépendance ne se définissait pas comme ça. C'était vraiment garder mes liens avec mes parents tout en étant assez libre et autonome.
Ouais.
Mais pour le coup, ce que j'ai remarqué, c'est que... Bah, loin des yeux, loin du cœur, je dirais, quoi.
Ouais,
malheureusement.
La vie continue. C'est intéressant, votre témoignage, Hassan. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelé. Raphaël Milkovitch, certains jeunes peuvent vous dire ça, que finalement aussi, quand le foyer n'est pas déserté et que le retour de l'enfant provisoire pour une soirée, pour une journée, n'est pas attendu avec une ferveur parce que la vie continue. Est-ce que les jeunes peuvent percevoir vivre cette déception, comme le disait Hassan?
Oui, alors effectivement, ça peut les surprendre parce que tant qu'ils étaient à la maison, beaucoup de choses étaient organisées en fonction d'eux. Et là, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont partis, les parents se réorganisent leur vie, leur fonctionnement. Et c'est vrai qu'une visite de l'enfant peut faire voir à celui-ci justement l'écart entre la situation telle qu'elle était et la place qu'il avait avant de partir et celle qu'il retrouve en revenant, qui n'est plus la même. Donc effectivement, ça peut froisser parfois les enfants qui justement ne s'attendent pas finalement à ce qu'on ne garde pas leur place intacte une fois qu'ils sont partis.
Oui, d'autant plus que sur le continent africain, il faut quand même reconnaître une chose, hein, on a beaucoup parlé du syndrome du nid vide pour les parents, mais ce nid, il n'est jamais vide, hein, sur le continent africain, Elsa Ramos.
Alors, il est peut-être moins vide, effectivement, parce qu'on voit ça aussi, ne serait-ce que par rapport à la pertinence d'un espace à soi, d'une chambre à soi. Donc autant en France par exemple, hein, avoir une chambre à soi, pouvoir se séparer des autres membres du groupe est normal, et j'allais dire le principe de la construction d'un individu, de l'autonomie, etc. Autant il est plus difficile, effectivement, cet espace fait moins sens. Dans certains contextes nationaux.
Vous avez travaillé par exemple sur le Brésil, est-ce que là on est entre les deux?
Alors, je pense qu'on serait plutôt du côté du Brésil. Alors, pour aller très vite au Brésil, par exemple, quand je demandais aux jeunes adultes, hein, qui vivaient chez leurs parents, « Est-ce que tu fermes la porte de ta chambre ?» On me disait « Mais je comprends pas ta question. Pourquoi tu veux que je ferme ma porte ?» Alors qu'en France, « Est-ce que tu fermes la porte ?» Bah oui, parce que ceci, le bruit, des fois je laisse ouvert, etc. Et donc, il y avait une vraie incompréhension par rapport à cette question de « Pourquoi tu veux que je ferme la porte ?» Je veux dire, la famille n'est pas une menace.
Ouais,
donc, voilà, pour moi, l'Afrique subsaharienne serait davantage du côté du modèle brésilien, où on reste quand même proche, en fait, hein, dans le groupe familial.
Oui, et puis on est une partie de la famille et pas seulement un destin individuel. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On passe la parole à Adjoa, qui a 26 ans, qui est à Abidjan. Bonjour Adjoa.
Bonjour Emmanuel.
Alors Adjoa, vous êtes partie toute seule à l'âge de 18 ans, hein, pas pour vous marier. Vous êtes partie vous installer seule parce que votre maman s'était installée avec un autre homme et vous n'aviez pas une bonne relation avec votre beau-père. Et finalement, avec le recul maintenant, puisque ça fait quoi? Ça fait 8 ans que vous êtes partie, hein.
Oui, 8 ans.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous avez appris en vivant seule? Pour l'instant, vous n'êtes pas mariée, si je ne me trompe pas, Adjoa.
Non, ça ne va plus.
Ouais. Alors avec le recul, là, comment vous avez vécu ces années seule?
Ça m'a permis de me former en cuisine et dans l'informatique aussi.
Mm-hmm.
Et d'être autonome aussi.
Vous avez dit au standard, Adjoa, j'ai appris aussi à ne plus être capricieuse.
Voilà, oui, exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Capricieuse.
Oui.
J'avais du mal à vraiment comprendre certaines choses qu'on me faisait comprendre. Mais maintenant, je sais que mes parents étaient vraiment cool, quoi.
Voilà. Une fille qui vit seule à Abidjan, comment vous êtes perçue?
Bah, vu que moi, je suis battante, et d'autres me félicitent pour ça. Donc, c'est chouette, quoi. Parce qu'il y a d'autres qui disent, ben, c'est pas facile. Parce que vivre seule comme ça, il y a des filles qui vont faire des conneries. Au moins, c'est pas le cas. Moi, je travaille à l'église. Donc,
Ouais. Et vous avez la tête sur les épaules, hein, j'ai l'impression. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Adjoa. Elsa Ramos et Raphaël Milkovic, il faut quand même qu'on parle un peu des parents, parce que, on l'a dit, pour les jeunes, c'est vraiment une étape dans la vie, une étape qui s'accompagne aussi de l'indépendance financière, du fait de trouver un travail, etc. Mais pour les parents, comment les préparer finalement à mieux permettre à leurs enfants d'être autonomes, de se construire, Elsa Ramos?
Alors, pour les parents, c'est une vraie rupture dans un des rôles qu'ils ont assumé jusque-là, qui est le rôle de parent. Des enfants qui partent, cela signifie que dans le quotidien, on entend l'importance du quotidien, que ce soit dans le chez-nous familial, que ce soit ensuite dans j'ai mon propre chez-moi, et donc il faut que je m'organise, que je fasse à manger, etc. Mais dans la vie, dans le chez-nous familial, les parents, une fois que les enfants sont partis, ils peuvent moins, j'allais dire, mobiliser cet aspect du être parent au quotidien, même s'il y a des coups de téléphone, on se maintient en lien, etc. Et cela signifie qu'ils doivent aussi se tourner plus vers peut-être le conjugal s'ils sont en couple
ouais.
Ou bien effectivement se retrouver un petit peu, j'allais dire, seul comme individu et à devoir combler ces absences.
Raphaël Milkovic, est-ce que parfois pour les femmes il y a un sentiment d'inutilité pour des mères qui ont été les piliers de la famille qui se retrouvent seules ou seules uniquement avec le conjoint?
Oui, alors ça peut être d'autant plus le cas qu'elles ont vraiment tout sacrifié pour leur rôle de mère et qu'effectivement si du jour au lendemain ce rôle s'arrête, c'est vrai qu'elles sont un peu démunies, mais après c'est pas forcément non plus un automatisme. Il y a des mères qui dès le plus jeune âge ont en tête cette progression vers l'autonomie et qui peuvent inciter leur enfant, même tout petit, par exemple en le laissant traverser la rue tout seul, enfin des petites choses comme ça, des petites étapes tout au long de la vie de l'enfant qui tendent vers cette autonomie qui sera du coup beaucoup plus douce et transitoire que si pas transitoire mais progressive que si la mère se sacrifie, se dévoue entièrement au détriment parfois de sa profession, de son couple ou d'autres aspects de sa vie.
Alors, on a beaucoup de jeunes qui nous ont appelés tout au long de l'émission. On n'a pas eu de maman, mais on a un papa qui nous appelle. Jenny Gérard, qui est à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. Bonjour, Jenny Gérard.
Oui, allô, bonjour.
Alors, vous, comment... vos enfants sont partis, c'est ça? Ils sont...
Oui, presque. En fait, je pense que je devrais partager avec eux mon expérience parce que moi, je suis parti de la maison à 12 ans pour aller à l'internat. Quand je suis rentré à 18 ans, j'ai plus jamais habité la maison. J'ai commencé à me battre et ça m'a permis d'être l'homme que je suis. Je pense que mes parents ont été fiers de moi. Aujourd'hui, je suis en train de préparer mes enfants à faire la même chose. La première, elle est à l'université là en ce moment. Après sa licence, je pense qu'elle devrait partir. Elle devrait partir. Je l'ai préparée psychologiquement. Nous travaillons sur un projet qui lui permettra de s'installer. Le véritable souci se situe souvent au niveau des filles parce que, comme je disais, on a l'impression que quand une fille habite avec ses parents, elle est respectable, elle est plus respectée et que un mari se sentirait plus en sécurité à la trouver chez ses parents que de la trouver seule. Bon, aujourd'hui, la société évolue. Je pense que, évidemment, notre mec se sentirait plus à l'aise de rencontrer sa fiancée chez elle.
Voilà.
Merci Jenny Gérard. Je voudrais aussi terminer en lisant le message de Chris à Pointe-Noire. Il a 30 ans au Congo-Brazza. Il nous dit « Moi, j'ai quitté les parents à 28 ans, donc il y a 2 ans. Je ne savais pas que c'était un drame pour eux. Après avoir juré de ne jamais venir me voir, mon père est venu il y a 2 jours. On a parlé du départ et j'ai réalisé sa douleur. » Voilà, c'est un très beau message. Merci à vous deux, Raphaël Milkovitch, psychologue, professeur à l'Université de Paris 8. Et merci à vous, Elsa Ramos, sociologue à l'Université de Paris. Dans quelques instants, le journal. Mais tout de suite, allez, une gorgée d'eau fraîche dans la vallée du Sousse de Polocorp et Atlas Collective. Gnawa.
Milliards de voisins, c'est fini.
Tout à l'heure sur